Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau carnet de région, l'actualité de la semaine en Languedoc-Roussillon, un magazine réalisé grâce à des sujets en provenance de différentes radios de la région. Au sommaire, première victime de la crise, les femmes. La tournée nationale de militantes féministes européennes a fait escale en Lozère à Mende, un sujet de 48 FM de Ludovic Terrol. Un plan social, un de plus du côté de l'usine Jalat à Saint-Hippolyte du Fort dans les Cévennes gardoises. Vous en saurez plus dans un instant avec Rémi Goujon de Radio Escapade. La colère des commerçants de Montpellier et des alentours cette semaine contre Jean-Pierre Mour, le président de l'agglomération de Montpellier, au sujet de la multiplication par 4 de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Reportage dans un instant de Radio Pays d'Hérault. Un exercice de sécurité civile cette semaine dans l'Aude en matière de risques naturels. Reportage d'Éric Boyer, d'RCF Pays d'Aude. Le festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée, basé à Sète, s'exporte l'an prochain au Maroc, en Espagne et en Italie. Des précisions avec un sujet d'Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault. Et puis Alain Mendes de Radio Lodève est allé cette semaine à la rencontre de Miss Languedoc-Roussillon avant son départ pour la finale nationale à Paris le 8 décembre prochain. Dans le cadre de la tournée nationale de militantes féministes européennes, une soirée débat a été co-organisée en Lozère à Mende par le collectif pour un audit citoyen de la dette publique et le planning familial de Lozère. Le thème portait sur les conséquences de l'austérité pour les populations dans différents pays européens et notamment sur les femmes. Car les femmes sont les premières victimes de la crise. En Grèce, par exemple, le taux de chômage des jeunes femmes atteint les 62%. Écoutez Sonia Mitrayas, qui est membre du groupe des femmes grecques contre la dette illégitime et les mesures d'austérité.
C'est les femmes qui payent le prix fort de cette austérité, parce que vu la division sexuelle du travail, elles avaient obtenu des droits au travail à cause de cette division sexuelle du travail, et elles travaillaient surtout dans l'état social. Et c'est l'état social aujourd'hui qui est détruit en Grèce en moins de 2 ans et demi, et c'est comme la Grèce et le laboratoire, le but des mesures d'austérité, c'est de passer à la trappe toute l'Europe. C'est-à-dire, le but des mesures d'austérité de la Troïka, c'est de commencer par la Grèce et de détruire l'état social européen.
Même constat pour Magda Alves, qui appartient à l'organisation féministe portugaise UMAR, l'Union des femmes alternatives et réponses.
Les femmes, comme elles l'étaient déjà et en période de crise encore plus, elles sont bien plus atteintes par la précarité, par les bas salaires. L'inégalité salariale au Portugal est entre 19 et 20%. Elles sont, quand on parle de pauvreté, on parle essentiellement de femmes et d'enfants. Quand on privatise les services publics et donc on coupe dans la santé, qu'on coupe dans les équipements sociaux d'aide à la petite enfance, on sait que tout ce travail qui devrait être assuré ou du moins aidé par des services publics, c'est les femmes qui vont devoir le faire, et elles vont devoir le faire en retournant au foyer. Et en ce moment au Portugal, on assiste à un retour au foyer des femmes, et ça c'est une perte qu'on ne peut pas accepter. On a mis trop longtemps à acquérir le droit au travail, à notre carrière professionnelle. On refuse de retourner au foyer parce que l'État n'assure pas les services publics qu'il doit assurer. Au niveau des violences aussi, on sait que beaucoup de femmes ne sortent pas de relations violentes parce qu'elles n'ont pas d'autonomie économique. À partir du moment où on réduit leur salaire de manière abrupte, où on leur offre entre guillemets que le chômage ou la précarité, bien évidemment on difficulte à une femme victime de violence de sortir de cette relation.
C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48 FM Mende. Les usines Jalat sont une institution à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. principal employeur de la ville, l'usine de chaussures de sécurité a compté plus de 1000 employés à ses plus belles heures. Depuis le début des années 90 et le développement de la mondialisation économique, l'entreprise a du mal à faire face à la concurrence et les plans sociaux s'enchaînent. À l'heure actuelle, 133 salariés travaillent à Saint-Hippolyte-du-Fort, mais la direction Jal Group, propriétaire de Jalat, a annoncé en début de semaine la suppression de 58 postes. Pour Christian Dubois, délégué CGT chez Jalat, la tendance est plutôt à la résignation, même s'il espère toujours qu'une solution soit trouvée pour éviter ces nouveaux licenciements.
Pour moi, c'est la mort annoncée de la ferme. Enfin, la mort, on ne peut pas dire ça, mais on va dire que même si on vient d'avoir les informations, si ça nécessite de les analyser, y compris avec nos experts et notre avocat, les mesures qui nous ont décrites lors de la présentation montrent que Saint-Hippolyte va souffrir. Bon, déjà parce qu'elle va perdre des emplois, les gens qui vont perdre leurs emplois, donc sur le bassin biganais, je pense que ça va être terrible pour eux, mais aussi pour les personnes qui seront susceptibles de pouvoir continuer dans cette entreprise, parce que vu la structure qu'ils nous annoncent et vu les volumes qu'ils veulent dégager pour pouvoir couvrir les frais fixes, donc 500 000 paires par an, je pense que ça sera très 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 pénible de pouvoir travailler dans ces conditions. Et donc partant de là, donc sachant que c'est quand même du personnel que, où l'âge moyen est de plus de 50 ans, prévoir une augmentation de productivité à ce niveau et cet effectif-là, ça sera très difficile de maintenir l'activité dans ces conditions sur Saint-Hippolyte-du-Fort. De toute manière, c'est toujours économique pour eux. Je vous dis, ça va faire depuis 1993 qu'on procède à des licenciements, 98, 2002, 2007 et maintenant 2012. Et chaque fois, c'est pour la bonne cause, c'est par rapport à des besoins économiques. Et chaque fois, ces mesures sont susceptibles de pouvoir pérenniser le site. Mais malheureusement, on s'aperçoit que chaque fois, il faut revenir. On prend les aides des pouvoirs publics et un coup qu'on a touché les aides des pouvoirs publics, le reste ne suit pas, quoi. La pérennité, elle ne vient jamais. Donc il y a notre expert qui descend pour analyser, pour justement prendre note de tous ces éléments, travailler avec lui, voir au niveau sur le plan industriel, peut-être nous aiguiller pour pouvoir vraiment analyser le plan qu'il nous propose et voir sa viabilité sur laquelle on a un point d'interrogation assez important. Éventuellement faire des propositions alternatives pour qu'il y ait vraiment vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment pour les éclairer à ce niveau-là, pour qu'il y ait vraiment, si c'est le cas, une nécessité d'un plan social, qu'il y ait vraiment un projet industriel derrière, qui soit viable et pérenne pour le site de Saint-Hippolyte-du-Fort et Jalat.
Et les salariés ont reçu le soutien de certains élus locaux, William Dumas, député de la 5e circonscription du Gard, ou encore Damien Allary, le président du conseil général du Gard, ont écrit à Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, pour attirer son attention sur ce dossier. C'était un sujet de Rémi Goujon, de Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Racket Unlimited, pouvait-on lire vendredi matin sur les panneaux des manifestants réunis devant l'hôtel de l'agglomération de Montpellier, référence à une récente campagne de communication de l'agglo de Montpellier. Démonstration donc de force et colère des commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales. Ils étaient environ 800 réunis sous les fenêtres de Jean-Pierre Moore, le président socialiste de cette agglomération qui regroupe 31 communes et un peu plus de 400 000 habitants. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'augmentation vertigineuse de la CFE, cotisation foncière des entreprises, décidée par Jean-Pierre Moore, le président de l'agglo, entouré de gardes du corps, a tenté de s'expliquer devant les commerçants.
Moi, je viens à votre rencontre et j'ai des choses à vous dire. Vous attendez des réponses, je vais vous les donner. Mais vous les entendrez mieux si vous me laissez parler au lieu de brailler. Je viens à votre rencontre pour vous faire part de la solidarité qui est la mienne avec le problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est faire face rapidement à la situation de difficulté dans laquelle vous êtes, et j'ai pris des initiatives par rapport à ça.
Sur le fond, Jean-Pierre Moore ne fait pas marche arrière, il propose simplement pour l'instant d'étaler le paiement de la cotisation foncière des entreprises et organise un conseil d'agglomération extraordinaire dimanche matin 10h. Des annonces qui n'ont pas convaincu les manifestants. Écoutez le témoignage de ce chef d'entreprise en bâtiment à Montpellier.
C'est n'importe quoi. La taxe d'entreprise, la taxe foncière des entreprises maintenant qui est remplacée, celle qui est la taxe qui était appelée auparavant la taxe professionnelle des entreprises, est passée pareil pour moi de 690 à 2351 euros. Donc ce qui est quand même intolérable, et pour moi c'est un vol manifeste, et nous n'avons aucune force par rapport à ces pouvoirs publics qui prennent des décisions d'une manière arbitraire. À ce moment-là, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans les états de dictature, ça ne va pas. Voilà.
Et vous, c'est hors de question, vous ne pouvez pas payer cette augmentation ?
Si, je pourrais la payer, mais par principe, j'estime que toute augmentation dans une vie est tout à fait tolérable. On peut accepter une hausse de 2%, 3%, 5% dans une année, 10 au plus, mais pas 350%, pas 400%, ni 600%. C'est intolérable, c'est du vol, c'est du viol financier. Voilà.
Enfin, un collectif de commerçants porte l'affaire en justice et pour l'instant, les chefs d'entreprise, commerçants et professions libérales de l'agglomération de Montpellier ont jusqu'au 17 décembre pour payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui a remplacé la taxe professionnelle. En matière de risques naturels dans la région, le département de l'Aude en cumule de nombreux. Inondations, feux, tremblements de terre ou encore raz-de-marée. C'est pour cette raison qu'un exercice de sécurité civile a rassemblé cette semaine 200 professionnels venus de toute l'Europe. Le reportage d'Éric Boyer d'RCF Pays d'Aude.
Command Post, c'est le nom d'un exercice de sécurité civile européen qui se déroule actuellement sur le département depuis mardi et jusqu'à vendredi. Il réunit 200 personnes au total sur le terrain, dont 40 experts provenant de plusieurs pays d'Europe, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, la Hongrie, la République tchèque, la Lituanie et bien sûr la France. Cet exercice s'articule autour d'un tremblement de terre et un tsunami fictif. Pourquoi cet exercice est important ? La réponse du colonel Henri Benedettini, directeur des services départementaux d'incendie et de secours.
Écoutez, d'abord c'est important pour nous de façon à nous préparer sur un éventuel événement majeur, mais c'est aussi très important au niveau européen pour faire travailler ensemble les experts des différents pays européens, faire un échange donc de compétences, un échange également d'expériences et puis le test de différents matériels, en particulier des matériels de communication. On a aujourd'hui un nouveau système qui est mis en place par le Luxembourg, qui est un système satellitaire qui va permettre de partager ensemble des bases de données à la fois géographiques, d'images et de données textes.
Est-ce qu'on peut tout prévoir ? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'auriez pas prévu qui peut arriver ?
On ne peut pas tout prévoir, bien évidemment, mais je crois que l'intérêt de ces exercices-là, c'est surtout un échange entre les différents pays européens et la possibilité donc d'avoir une certaine solidarité européenne au travers des forces de sécurité civile et une culture commune.
Est-ce que c'est compliqué d'être expert en ce domaine ?
Bah écoutez, c'est assez compliqué parce qu'il faut une certaine adaptation, il faut aussi une connaissance de l'anglais, donc pour les Français c'est un petit peu difficile. Hein. Et également, c'est aussi le résultat d'une expérience professionnelle, personnelle et d'expérience à la fois opérationnelle et après de connaissances.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héros,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La poésie, vecteur de liens entre différents pays du bassin méditerranéen. Le festival Voix vive de Méditerranée en Méditerranée, basé à Sète, a décidé de s'exporter en 2013 vers d'autres rives marocaines, italiennes et espagnoles. Un festival de poésie qui réunit chaque été au mois de juillet une centaine de poètes dans les rues de Sète. Une organisation commune entre les différentes villes méditerranéennes partenaires de ce projet, El Jadida, Tolède ou encore Gênes. Maïté Vallès-Bled, la directrice du festival.
Ce sont des rencontres, ce sont des échanges, des réflexions menées en commun. On a beaucoup de demandes pour ce festival et nous avons commencé de construire avec un certain nombre de villes qui étaient prêtes aussi à construire et dans un esprit qui intégrait complètement le concept du du festival. Et dans ces villes-là, il fallait également qu'il y ait des structures relais pour prendre en charge la gestion de la manifestation sur place. Et c'est ce à quoi nous sommes arrivés en Espagne et en Italie. Et au Maroc, nous travaillerons en direct avec la province d'El Jadida.
Ce sera des éditions moins importantes que celles de cette.
Ce sont des éditions de 3 jours pour Tolède et pour El Jadida, de 2 jours pour Gênes, avec un nombre de manifestations qui peut osciller aux alentours de 22 par jour et qui sont pour chacun des pays, des manifestations communes, des rencontres phares, hautement symboliques de ce que nous essayons de soutenir, que l'on retrouvera comme cela dans chaque pays. Je pense par exemple à être poète en son pays, que signifie aujourd'hui être poète dans tel ou tel pays de la Méditerranée, ou bien la poésie territoire de paix, qui est une question évidemment éminemment liée à une actualité brûlante et émouvante. Je pense aussi à D'une rive à l'autre, qui permet à des poètes de pays très différents de la Méditerranée d'échanger non seulement leur poésie, mais aussi une réflexion, des questionnements, un point de vue sur le monde et les hommes dans ce monde.
Maïté Vallès-Bled, la directrice du festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée, au micro d'Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault. La directrice a fait une demande d'aide européenne pour financer ce projet. Et puis juste avant de refermer ce carnet de région, rencontre avec la première dauphine Miss Languedoc 2012. Emmanuelle Fabre a remporté le concours régional cette année. Étudiante en 4e année Master 1 Ressources Humaines à Montpellier, la jeune et belle fille de 22 ans est originaire du Cœur d'Hérault. Partagée entre Gignac, où elle réside, et Canet, où elle a ses racines, elle était au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève il y a quelques jours, juste avant son départ pour l'île Maurice et après Paris.
C'est vrai que j'ai toute ma famille qui est de Canet, voilà, notamment mon grand-père, Max de Marne, et Paul de Marne, qui a la statue quand même sur la place de Canet. Donc je me sens un peu plus canetoise, mais c'est vrai que j'habite aussi à Gignac, donc voilà, je suis partagée. Mais j'ai été première dauphine donc, de Alison Coissonnet, Miss Languedoc 2011, et puis on est encouragée par la Miss qui a été élue donc, à notre place, hein, et bon, voilà, on est motivés, on retente notre chance. Depuis août, donc depuis mon élection, je suis sollicitée. Donc bon, mais oui, c'est sûr, c'est un rythme un petit peu effréné avec les études en parallèle, mais c'est que des bons moments. Et puis la pression pour l'instant, je la ressens pas, donc je pense que ce sera la veille du départ. On part à l'île Maurice pour le voyage de préparation dans 10 jours, et après il nous reste 2 semaines et demie pour les répétitions de la grande soirée, donc le 8 décembre. Déjà participer, c'est juste une expérience magnifique, hein, qui passe très vite, donc il faut profiter de chaque moment. Ensuite oui, je vais faire de mon mieux déjà pour être dans les 12, hein, et être présélectionnée. Puis après, je compte sur le Languedoc, sur les Canetois, sur les Gignacois et sur les autres, bien sûr, les autres Français pour me soutenir et aller le plus loin possible.
Emmanuelle Fabre, Miss Languedoc, qui défendra les couleurs de la région. Le concours Miss France Nationale a lieu cette année à Paris le 8 décembre prochain. Ainsi s'achève ce carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon. Excellent week-end à toutes et à tous, merci de l'avoir écouté et rendez-vous la semaine prochaine.